Mais je crois que avant de poser des questions, on va enchaîner le programme pour pouvoir réserver, si nous en avons le temps, en fin de matinée, des réactions de la salle, d'autant que j'ai eu des demandes de personnes situées au fond qui disaient qu'on ne leur tendait pas assez le micro. Alors, croyez-moi, on va y remédier. Alors, l'intervenant qui va suivre, c'est Alain Amselec, qui aime à se définir ainsi comme un praticien de la psychanalyse. Il est auteur de nombreux articles, il a contribué à plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels « L'avancée en âge, un art de vivre » que j'ai eu le bonheur de diriger aux éditions RS. Il avait titré alors son exposé « La mort dans l'âme » ou « Psychanalyse et spiritualité au service de l'avancée en âge ». Par ailleurs, Alain a rassemblé ses travaux dans une trilogie intitulé « Le livre rouge de la psychanalyse » en 2 volumes, suivi d'un autre qui est « L'ouverture à la vie », publié aux éditions Desclée de Brouwer en 2006, 2010 et 2011. Ce matin, il a titré son exposé « Le pari du sujet » ou « Interaction animale en situation psychanalytique ». Nous l'écoutons.
Bonjour à tous et à toutes. Ce sont deux exergues éclairants de Winnicott et Lacan. Je suis psychanalyste, c'est-à-dire un drôle d'oiseau, un animal qui fait tâche dans ce monde voué au culte de la raison et du savoir, de la rentabilité et de la vitesse, mais aussi un praticien passionné et ébloui par les possibilités de son métier, dû essentiellement, c'est mon intime conviction, à ce pari du sujet et cette soif d'altérité qui sont les fondements et font l'efficace de la relation psychanalytique dans son apparente folie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille se passer, surtout dans les différentes formes d'autisme et d'Alzheimer, des méthodes cognitivo-comportementaliste, éducative ou rééducative. Une prise en charge plurielle et multidimensionnelle me sembla au contraire bienvenue afin de ne se priver d'aucune voie potentiellement efficiente. En tout cas, n'est-il pas déjà difficile et complexe, comme l'assurait Winnicott? Et ce grand analyste n'a-t-il pas montré, dans son langage paradoxal, combien il était parfois nécessaire de cesser psychanalytiquement d'être psychanalyste pour le rester encore par la même? S'il existe de nombreuses hypothèses biologiques, génétiques, neurologiques, psychologiques, environnementales, concernant autisme et Alzheimer, que sait-on vraiment? Pas grand-chose, ne nous faisons pas d'illusions. On voit bien que toutes les recherches pour trouver une molécule améliorant l'état du patient ont échoué jusqu'ici, malgré tous les efforts des scientifiques et des laboratoires de recherche. La pilule miracle serait-elle dans ce domaine une pilule mirage? Une équipe de généticiens de l'université de Tel Aviv prétend avoir fait une percée prometteuse vers peut-être de futurs traitements des maladies d'Alzheimer et de l'autisme. En attendant, on se tourne vers les traitements non médicamenteux pour essayer de ralentir le processus inexorable chez les patients Alzheimer, et par rapport aux autismes, on reste essentiellement dans la pratique d'un conditionnement opérant au risque de faire des autistes des petites machines pavloviennes sans s'occuper de leur vie intérieure. Que viens-je faire ici, moi qui en sais encore moins, pour ne pas dire rien du tout, et qui n'est pas la longue expérience clinique qu'ont ici nombre de mes collègues de ces deux pathologies? C'est ce qui m'a longtemps fait hésiter à accepter de m'exposer dans ce colloque. Pourtant, mon peu d'expérience avec de tels cas m'a suffi pour me rendre compte que les patients concernés, essentiellement adultes, avaient montré parfois une accroche à ma manière d'être avec eux dans la situation psychanalytique, en évitant tout étiquetage aliénant qui ne pouvait que les sortir de leur singularité et alourdir encore leur handicap imaginaire ou réel. Peut-être ai-je fantasmé, mais cela ne vaut-il pas la peine d'être interrogé ? Je me demande d'ailleurs si nous n'avons pas tous une certaine expérience de l'autisme pour être nés dedans, comme l'affirme notamment Harold Searles, et en avoir gardé un noyau archaïque capable parfois de se réactualiser comme défense face à l'environnement humain, ou au contraire d'entrer en contact intime avec certains autistes dans un processus de communication inconsciente où patients et analystes s'identifient inconsciemment dans une grande intensité affective à certains modes d'être à l'œuvre chez l'autre. Avec ce type de communication inconsciente, on touche pour moi au point essentiel qui permet de relever le défi lancé à la psychanalyse par l'énigme des autismes et des maladies d'Alzheimer. C'est ce qui m'a convaincu finalement de me risquer devant vous, car d'une part, en tant que psychanalyste, je suis habitué au cheminement sans savoir, mais plus encore, à cultiver un état régressif de suspension du moi pour être sans savoir, sans mémoire, sans projet, selon la recommandation du psychanalyste Bion et son concept opératoire de rêverie contenante. Dans le fil de l'écoute sans but de Winnicott et de l'écoute avec attention également flottante de Freud. Dans un retour aux origines de la pensée aux frontières de l'irreprésentable. On n'est plus là dans le « je pense, donc je suis » cartésien, mais dans le « je suis ou je ne pense pas » lacanien. C'est donc surtout pour dérouler une défense et illustration de la psychanalyse que je me présente à vous. Pourquoi tant de haine, de mépris et de peur envers la psychanalyse? Pourquoi, monsieur Daniel Fasquelle, voulez-vous avec tant d'acharnement l'interdire? La psychanalyse a été et est encore honteusement vilipendée, d'autant plus honteusement qu'on attaque à vrai dire, une conception tout à fait erronée ou ringarde de la psychanalyse, une conception psychologique et totalitaire. Certes, on peut se demander si cette méconnaissance n'est pas due aussi aujourd'hui aux psychanalystes eux-mêmes qui se sont transformés pour beaucoup, surtout en France, en ce que j'appelle des psychanalyseurs. Ils donnent une image fausse, dogmatique et prétentieuse des psychanalystes. Par leur quête abusive de sens et leurs excès d'interprétation, par leur pensée unique, esquivant la surdétermination, c'est-à-dire la multiplicité des causes, parfois même contradictoires, par leur rejet absolu du non-sens et de toute expérience de la déraison, ils tombent dans l'erreur facile de culpabiliser les parents qui ont déjà, par leur position, tendance à se culpabiliser eux-mêmes. Et ils en font ainsi des ennemis de la psychanalyse. On sait les ravages produits par les contradictions d'un Bettelheim, par exemple. On voit la guerre féroce que nous font sans répit certaines associations de parents. à vouloir figer la psychanalyse en version dogmatique de Freud et Lacan, beaucoup oublient l'immense ouverture et créativité incessante de ces deux génies, et surtout toutes les innovations dont bénéficie la psychanalyse contemporaine, ne vaudrait-il pas mieux dire d'ailleurs les psychanalyses contemporaines. Je pense aux avancées de Ferenczi, Balint, Bion, Winnicott, Searles, Bigras ou même Irving Yalom, et combien d'autres sans doute. Tous nous incitent à faire le pari du sujet et nous apprennent, comme me l'a enseigné Maud Manoni en me supervisant, que le mode d'emploi de l'analyse nous est donné finalement par ce sujet, si nous savons l'écouter et le respecter, éthique minima qui soutient l'analyse hors de toute théorie et de tout savoir, de toute visée directement psychothérapeutique. Mais plus encore, dans cette clinique de l'extrême ou clinique de l'archaïque à laquelle nous convoquent les autistes et les patients Alzheimer, il n'y a même pas en fait à suivre un mode d'emploi. Car si nous n'y résistons pas des quatre fers, ce qui se produit hélas trop souvent, eh bien oui, ce type de patients nous entraîne eux-mêmes irrésistiblement à régresser. Tout mental suspendu par contagion atmosphérique, Jung dirait par infection psychique réciproque, et nous font plonger dans leur propre monde. Ils nous autistisent, pourrait-on dire, ou réveille, active, notre part autistique archaïque. Comme si ces sujets voulaient nous faire partager leur monde et nous tester dans notre capacité à les en faire sortir. Comme le bébé soigne sa mère, le patient soigne son supposé thérapeute pour pouvoir être guéri par lui. Encore faut-il que celui-ci ne se défende pas et accepte de se laisser utiliser comme objet sans objectiver lui-même son patient. On comprendra que là, tout savoir ne peut servir que d'écran et de résistance. Le non-savoir des psychanalystes devient paradoxalement une des causes de leur efficacité. Dans les différentes formes d'autisme et d'Alzheimer, le sujet paraît absent ou s'absenter. Mais on ne peut pas ne pas se demander avec force, y a-t-il quand même quelqu'un là-dedans? Est-il vraiment absent ou simplement masqué et défendu, mais toujours là, au moins à l'état latent, derrière des angoisses et jouissances archaïques? Dans mon combat pour les enfants autistes, Bernard Goltz cite les paroles à 11 ans de son petit patient Vincent. « Tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu des difficultés. Quand je suis né, je n'étais pas là. » Si cet enfant peut parler de quand il est né, c'est bien pourtant qu'il était là, mais il n'avait pas encore constitué d'objet. L'autre n'était pas encore né pour lui, ou pas complètement. Il me semble faux de penser qu'on puisse naître physiquement sans naître par la même psychiquement, car comme l'affirme entre autres Gao Panlong, c'est le corps tout entier qui est l'esprit. Déjà Aristote, dans De l'âme, disait « On ne doit même pas se demander si le corps et l'âme ne font qu'un. » Dès qu'il y a un corps vivant, il y a un sujet. Le sujet de ce corps et de sa chair, le sujet de cette vie. On ne peut donc jamais dire que le sujet est absent, même chez des patients Alzheimer en phase terminale ou chez des autistes dans leurs formes les plus aiguës. Ne devrait-on pas distinguer en fait deux naissances, la naissance à la vie et la naissance au monde? Certains naissent en même temps à la vie et au monde. Leur soi est d'emblée relationnel. D'autres naissent à la vie avant de naître au monde. N'est-ce pas là le problème des autistes qui, nés à la vie, sont pris aussitôt dans un chaos sensoriel et émotionnel et ont de grosses difficultés, malgré un certain accès au symbolique, à médiatiser le réel pour naître au monde et à l'autre, avec une tendance à figer complètement leur situation pour se protéger au maximum. Et ne peut-on pas penser que les patients Alzheimer font le chemin inverse ? Ils meurent au monde en restant nés à la vie. Préférer à hypsisme le mot « autisme », inventé par Eugène Bleuler en 1911 dans le cadre des schizophrénies et à partir d'un radical grec qui signifie « soi-même », porte en lui-même les germes de sa symptomatologie, car il est formé du raccourcissement du mot « auto-érotisme », soit une négation de sa part sexuelle et désirante qui devient manquante et inconsciente. Aujourd'hui, on distingue clairement l'autisme des psychoses. L'autisme se spécifiant surtout par l'absence de délire et d'hallucination acoustico-verbale et une volonté d'immuabilité. Winnicott disait des autistes qu'ils étaient non intégrés en regard des enfants schizophrènes qui étaient, eux, désintégrés. La rétention de la voix, du regard et des objets pulsionnels chez les autistes vient d'une difficulté à exprimer leurs sentirs et incite à comparer leur manière de penser, apparemment désaffectée, à celle d'un ordinateur. Les autistes veulent pourtant se faire reconnaître comme intelligents et humains. Ils ne veulent pas être rejetés comme malades ou handicapés ou inhumains, mais considérés plutôt comme une minorité constitutive de la diversité de l'humain. Ils évoluent à leur manière en prenant appui sur un bordage subjectif interne, une peau symbolique, qui se complexifie et peut dégager progressivement et singulièrement leur part sexuelle, désirante et créatrice cachée. Le premier cas d'autisme répertorié et traité, Dick, le fut par Mélanie Klein, bien que ce soit Frances Tustin qui diagnostiqua vraiment Dick comme enfant autiste. Lacan, enthousiasmé par ce cas, lui a consacré 2 séances de son séminaire de 1954. Il lui appliqua sa théorie débutante du CIR, devenue plus tard RSI. C'est la jonction du symbolique à l'imaginaire qui est en défaut et ne permet donc pas la constitution de la réalité à l'enfant qui reste pris à l'intérieur de la gangue sans loi du réel. Le sujet ne peut se vivre que réduit et arrêté plus ou moins au seuil du langage, où il est foudroyé par des angoisses terribles, des agonies primitives, faute de pouvoir articuler ses sensations internes avec des perceptions du monde extérieur, d'assurer la synchronisation des sensations et affects et de trouver l'unité corporelle nécessaire au développement et à une polysensorialité harmonieuse. Par rapport à la question même posée par ce colloque, on voit finalement le lien entre Alzheimer et autisme. C'est le rapport aux autres et au monde, rapport en défaut. L'enjeu est donc d'aborder ce problème par le biais du sujet et de ses ressources, et non de la pathologie, du sujet et de l'ouverture d'une possible relation à lui. Il ne s'agit plus de soigner par un traitement médicamenteux ou objectivant, mais par un traitement relationnel. Il s'agit d'aller chercher et suivre le patient là où il se trouve, dans son propre désir, et non de le ramener là où nous nous situons dans notre désir. Et juste de rester là en sa présence ou jouer avec lui et, comme le dit Frances Tustin, lui faire sentir simplement, éventuellement avec un contact d'eau qui concrétise le holding nécessaire, qu'un autre existe et qu'il n'est pas dangereux. Comme le montre Searles dans ses travaux, c'est par une symbiose thérapeutique, soit en grande partie une incorporation mutuelle avec son supposé thérapeute, essentiellement non-verbal tout au moins au début, que l'autiste enkysté peut se dégager de là où il s'est fixé ou même carapassonné. Et il en est de même, mais hélas, seulement dans une certaine mesure, c'est-à-dire pour un temps, pour le souffrant d'Alzheimer, qui s'autistise de plus en plus entre gain de vie et dévitalisation mortifère. Avec ces sujets qui ne parlent pas ou parlent à côté, comme ils regardent de côté, qui reconnaissent difficilement l'existence de l'autre, il s'agit plus que jamais de leur faire d'emblée confiance, de les soutenir, c'est-à-dire de parier que derrière leur être vivant se trouve un sujet humain en devenir, capable de désir et de dialogue, qui se distingue de la machine comportementale des psychologues et de l'homme neuronal des biologistes porteurs d'une mémoire génétique. Cela oblige à retrouver les dimensions originaires, archaïques, de la constitution de l'humain et de l'émergence du symbolique et du langage. Cela oblige à régresser nous-mêmes pour inventer au cours de la cure de nouvelles formes de communication afin que ces patients puissent s'ouvrir lentement, doucement, à une relation réelle. Ferenczi avait raison de postuler entre analysant et analyste, outre la communication par le langage, l'existence simultanée d'une communication d'un autre type tel qu'on peut l'appréhender notamment chez les animaux. Nous pouvons considérer que les échanges au cours d'une psychanalyse s'effectuent effectivement à au moins deux niveaux distincts avec des passages permanents d'un niveau à l'autre. La situation psychanalytique, en provoquant une régression topique, favorise l'émergence de processus archaïques ou même animaux de conscience qui ne sont structurés ni par le langage ni par l'image, mais qui constituent un pur sentir, une éprouvance charnelle, sensuelle, et se transmettent de chair à chair, peut-être à travers un éther psychique de l'univers. J'ai bien apprécié la démarche de François Béguer avec la médiation animale. Cela m'a évoqué ma relation avec mon chien unique. Son nom ne dévoile-t-il pas déjà qu'il était pour moi un sujet s'il n'était pas un par-lettre au sens lacanien ? Unique, un magnifique boxeur qui m'a appris, mieux que n'importe quel gourou, l'art de la méditation, qui m'a entraîné à la capacité d'être seul en présence de l'autre. Unique, capable de rester allongé et détendu à côté de moi, sans bouger et en silence, mais totalement présent et vigilant, ouvert dans cette situation à tous ses sens et prompt, s'il le fallait, à réagir. Il m'a appris un autre type de communication que la parole, une communication fondée sur le regard, les biais du regard et les mouvements du corps, mais aussi de manière incommensurable sur la simple et effectuelle présence charnelle et même, je risquerai le mot, de présence interanimale, car devant mon chien, il m'arrivait de me sentir tout à fait animal comme lui, de me rouler par terre avec lui, entre autres étrangetés, présentant le même caractère sauvage et instinctif. N'oublions pas que dans un article de 1917, une des difficultés de la psychanalyse, Freud a écrit « L'homme n'est rien d'autre, ni rien de mieux que les animaux. Il est lui-même issu de la série animale, apparenté de près à certaines espèces, de plus loin à d'autres. Ses acquisitions ultérieures ne sont pas parvenues à effacer les témoignages de cette équivalence présente tant dans son anatomie que dans ses dispositions psychiques. » Fin de citation. Ne peut-on dire alors que si ce monde de souffrance, de silence et de rituel insolite des autistes nous touche profondément, c'est qu'il nous renvoie inconsciemment à celui ancestral du règne animal dont nous sommes issus. Dans un très intéressant article de François Lévy, intitulé « Les identifications animales des enfants à la lumière des nouvelles animalières de Kafka », l'auteur, reprenant Freud, développe l'idée selon laquelle les enfants passent par le stade d'une identification animale transitoire, un devenir animal, avant d'aborder l'épreuve œdipienne conduisant à un possible choix d'objet. Dans cette phase transitoire, on voit les enfants aboyer comme un chien, ou miauler comme un chat, hennir comme un cheval ou rugir comme un lion. Ce devenir animal permet de retarder provisoirement la problématique œdipienne, le devenir adulte qui représente aux yeux des enfants une perte irrémédiable. Chez Kafka, le non-dépassement de cette identification l'a amené à se décrire lui-même dans un devenir animal littéraire. S'il peut être utile d'utiliser des animaux tiers dans la relation thérapeutique, il ne faut donc pas oublier que nous sommes aussi, comme nos patients, des animaux, et que la clinique psychanalytique nous permet d'utiliser notre propre partie animale en l'offrant aux patients à travers une régression et une jouance capable d'ouvrir à un accordage affectif et une intersubjectivité. Comme le patient est stimulé là à des zones très archaïques, fondatrices de l'être vivant, l'analyste ne se heurte pas aux défenses habituelles plus évoluées. Bien au contraire, un sentiment d'apparentement permet un apaisement des angoisses du patient et de sa peur de l'engloutissement et de la mort, l'approfondissement du sens de la réalité, des possibilités de mieux accepter et apprécier l'autre, ce semblable et différent à la fois. Au terme de cette vadrouille, il me semble qu'un travail psychanalytique qui opère dans un tel espace de jeu, assumé dans le feu des régressions, transferts et contre-transferts les plus archaïques, peut permettre à de tels patients d'accepter de sortir eux-mêmes de cette forteresse qui n'est pas vide et d'exister en interrelation avec le monde des gens. Que vive la psychanalyse ! Je vous remercie de votre attention.
Merci Alain et Louis. Je suis entourée de deux cliniciens et il y a des ponts entre vous deux et c'est très agréable de pouvoir les faire en vous écoutant. Vous faites l'apologie de la relation, comme d'autres ici. Maintenant se dessinent les ponts entre autisme et Alzheimer, on en est au deuxième jour. L'accordage affectif, nommé plusieurs fois par vous deux. Et je suis sûre que dans la salle, il va y avoir des réactions et on va pouvoir tendre le micro à ce monsieur qui est au troisième rang, là, et qui aurait peut-être quelque chose à nous dire. Je vais juste vous demander de vous nommer, de dire votre profession. Oui, je pense qu'il marche.
Non, ça marche pas.
Il marche pas ce micro HF ?
Je peux m'en passer du micro.
Oui, alors attends. Repassez-lui un micro rapidement.
Merci.
Ah.
Tout simplement, bravo encore une fois et beaucoup d'émotion dans cette intervention de M. Amselek. Je suis très ému et ça me fait penser à un proverbe wolof du Sénégal qui dit « Nitnitaï garabam » en wolof. Ça veut dire « Il n'y a de médecin pour l'humain que l'humain ». Voilà, tout simplement. Merci.
Mmh. Joli. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient dire quelque chose? Christian Chaput?
Juste une remarque, parce que j'ai trouvé vos deux exposés vraiment formidables. Et ça m'a fait penser à une phrase, là encore, que me disait Henri Maldinet, quand on parlait de la psychose, du vieillissement, etc. Il me disait, en accord vraiment avec Winnicott, hein, pour comprendre, il faut d'abord ne pas savoir. Et comprendre, c'est prendre par la main. Et je trouve que vous avez très très bien mis en évidence, tous les deux, comment effectivement la relation avec le patient, elle se fait au premier contact, sans qu'on sache ni pourquoi, ni où, ni comment. Et si on n'accepte pas cette insu que la thérapie va structurer petit à petit, ben, il vaut mieux qu'on ferme notre cabinet.
C'est très joli. C'est vrai. Est-ce que ça s'appelle transfert contre transfert ou est-ce que ça s'appelle relation, au fond ? Relation. Hein. Et là, c'est différent. C'est pour ça que je le dis. C'est pour spécifier. Hein. Tu aurais quelque chose à dire là-dessus ? Oui, relation. Michel Gros-Claude.
Bon, redire... merci à Louis et à Alain Amselek, c'est banal, mais je le redis, qui, pour autrement, chacun à sa façon, persévérer envers et contre tout, je dirais, et depuis des décennies, peut-être je connais moins votre cheminement, mais là je l'entends, mais pour Louis, c'est évident, et puis pour d'autres aussi, de persévérer depuis des décennies dans l'obstination envers et contre tout du pari du sujet, qu'on peut appeler maintenant pari du sujet, qui était en suspens depuis longtemps, et de résister envers et contre tout à son exclusion ambiante.
Parlez bien dans le micro.
À son exclusion ambiante. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait, concernant plus particulièrement la maladie d'Alzheimer ou la démence, enfin, je l'ai déjà dit et redit, mais je le redis aussi, faire la peau à ce concept toxique et destructeur qui a été formulé au nom de la psychanalyse à propos du sujet dément, de psycholyse. Parce qu'il continue à faire des ravages implicites, on ne le redit plus tellement, mais il est toujours là. C'est la mort de la psyché et il n'y a plus rien. Et le second point, je trouve, concerne aussi quelque chose qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre, mais c'est peut-être fait de cette façon depuis hier, ça court. C'est quelque chose que j'avais formulé l'année dernière à Strasbourg, mais qui peut se faire de toutes sortes de façons, et qui est de nous faire des lanceurs d'alerte. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui court et qui peut prendre peut-être une forme concrète, mais déjà dans les paroles qu'on continue, qu'on persévère à dire, et qui, semble-t-il, à chaque fois se redécouvre comme si elles n'avaient pas été existées, qu'elles n'avaient pas existé, qu'elles auraient été, alors là, je dirais, fort close d'une certaine façon,
oui.
Comme vous l'avez dit.
Oui. Quelqu'un, François Bégère, premier rang, aurait, si on peut lui donner un micro, et après la dame, au fond, si... Voilà.
Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé... le rapport entre les animaux avec Alain Amselek, mais juste pour aller dans ce sens-là, Winnicott avait donc dit le doudou transitionnel, c'était l'objet transitionnel, c'était le doudou. Et les doudous, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des animaux. La plupart du temps, ce sont des animaux. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que très souvent, les enfants et les jeunes, et même les personnes âgées, reviennent à ce moment-là à cette idée d'animal. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai insisté, et j'insiste toujours, que l'animal est un partenaire incontournable dans toute thérapie.
Oui. L'objet transitionnel peut aussi, d'ailleurs, être un objet qui n'en est pas un, au fond. Ça peut être un petit bruit, ça peut être... ça peut être un smartphone, dit Louis. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je crois que des personnes... Voilà. Voulez-vous vous nommer peut-être et dire votre profession?
Bonjour, donc je m'appelle Cécile Bartoli et j'interviens comme psychologue dans une UPAD. Oui. Et je voulais apporter là, une vignette clinique autour de ce que disaient M. Ploton et M. Mselec par rapport aux patients. En fait, une patiente dans le cadre de cette UPAD dont j'ai suivi la fille... Et la fille exprimait l'absence complète de vie psychique et de mémoire chez sa maman. Et j'avais fait le pari de faire le suivi de la fille devant la maman. Donc voilà, la maman était associée. Effectivement, il n'y avait pas du tout de verbalisation, ni de aucune manifestation de vie psychique. Et donc j'ai dit, la fille me dit, je peux rien faire, elle me reconnaît pas, maman me dit rien, je sais même pas si elle sait que je suis sa fille. Elle me dit, de toute façon, elle a plus de mémoire. Et moi, je dis à la fille, mais peut-être qu'elle en a encore. Et cette dame-là, qui ne parlait plus, c'est à un moment donné, a levé la tête et a dit, mais ma fille n'a rien compris, j'en ai tellement trop que ça déborde. Ah. Et effectivement, je me suis dit, on est des experts de l'ignorance parce que je crois qu'on n'en sait rien. Voilà.
Ça rejoint aussi ce que dit Louis Ploton et ce que disait Hélène Oppenheim hier. Sur le fait peut-être que quand on oublie quelque chose ou qu'on fait une fixation, entre guillemets, d'un souvenir sur une période de la vie, c'est peut-être pas un hasard si c'est cette fixation. Vous avez parlé d'un de vos patients, Louis, j'ai 18 ans et je suis étudiant en médecine. Ça aurait été intéressant de savoir ce qui s'était passé cette année-là. L'inconscient est toujours là. J'ai une personne touchée par Alzheimer. Et ça, c'est important de le penser. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, parce que c'est tellement parlant. Frédéric Brossard voudrait prendre la parole, qui intervient donc en début d'après-midi. Mais...
Alors, je travaille en tant que psychologue en EHPAD. Et je voulais aussi restituer une vignette à laquelle j'ai pu assister. Donc, c'était aussi une famille qui venait visiter sa mère et qui pensait qu'il n'y avait plus d'interaction possible. Et en fait, la mère, dans la journée, elle déambulait dans le couloir de l'EHPAD. Et quand la famille venait, elle s'arrêtait et elle s'asseyait sur le lit. Et la famille, en fait, n'avait pas cette information-là et ça a tout changé. Parce qu'on pouvait peut-être même après suggérer qu'elle partait à la recherche de sa famille. Comme la famille était présente, elle s'arrêtait. Donc comme quoi, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Monsieur Ploton, sur les troubles du comportement, entre guillemets, les troubles du comportement, comme un message finalement qui n'est pas entendu et qui se manifeste par l'affect.
Oui.
Voilà.
Oui,
j'en ai des collections d'histoires comme ça, y compris une expertise que j'ai faite où la malade n'a pas dit un mot pendant un quart d'heure, 20 minutes, et où j'ai capitulé, bien sûr, et où quand je suis parti, elle m'a dit, vous savez, pour aller au cimetière.
Ah. C'est beau. Ouais, c'est très
vous savez, pour aller au cimetière.
C'est tellement lucide. Colette Romanoff.
Oui. Alors moi, mon métier, je suis metteur en scène, et à part que je suis devenue une petite spécialiste d'Alzheimer. Donc moi, je crois que pour les patients Alzheimer, le plus important, c'est le présent. Donc si l'autre, il dit, je suis étudiant en médecine parce que j'ai 18 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans sa vie, il se sent très mal. Et donc, il a besoin de retourner à une époque où il était en sécurité, où il se sentait bien. Donc c'est le présent qui est le problème. C'est pas du tout le passé ou l'inconscient, c'est le présent concret. On part souvent pour Alzheimer dans toutes sortes de trucs qui sont vraiment très discutables. C'est le présent qui compte. Ils sont dans le présent et ils peuvent vous faire cadeau du présent.
Et vous nous faites un très beau présent en ayant écrit « Le bonheur plus fort que l'oubli ». Alors, Frédéric Munch, qui dirige cette filière gériatrique et qui nous a parlé hier, voudrait prendre la parole. Est-ce qu'on peut lui tendre un micro au premier rang? Merci.
Merci. Je crois qu'on a un vrai problème dans les institutions gériatriques, c'est un problème qui est lié à la formation initiale des soignants. Puisqu'en fin de compte, les personnes qui se trouvent au corps à corps avec les personnes démentes, ce sont des aides-soignantes qui n'ont pas appris la clinique du sujet et qui en fait n'ont appris que la clinique de l'objet à soigner. Et j'en veux pour exemple, petite vignette clinique, un patient pour lequel on m'a appelé un jour après qu'il ait eu des troubles du comportement agressif entre 7h et midi, toute une matinée, parce qu'il avait régressé à un stade d'animalité, c'est-à-dire qu'il avait fait un beau cadeau, à savoir une merde considérable qu'il avait étalée partout, et les soignants s'employaient à vouloir venir le nettoyer. Et ça l'a rendu de plus en plus agressif. Donc on m'a demandé d'intervenir en dernier recours, en espérant évidemment que j'allais subir les mêmes avatars que l'équipe. Et mon intervention s'est limitée à la chose suivante, et j'étais dans l'ignorance totale du résultat que ça apporterait. Je suis rentré dans la chambre après avoir toqué. « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? » ?»« Bien. » Et je fais un pas de plus et je découvre le spectacle impressionnant. Et je m'exclame avec force et geste, « Mais monsieur, mais vous n'êtes pas dans la merde !» Courte négociation, je lui propose d'aller chercher de l'aide. Il me congédie, je m'en vais. Et l'échec annoncé, apparemment, a eu lieu. Sauf que 5 minutes après, retournant dans la chambre avec une infirmière armée, bardée de protection, etc., en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà quelqu'un dans la chambre. Deux jeunes aides-soignantes, absolument pas formées, 21, 22 ans, en train de discuter avec le monsieur, en train de nettoyer la chambre. Voilà. Et donc, ensuite, on a réfléchi. Qu'est-ce qui s'était passé? Et j'ai invité les soignantes à imaginer ce qu'une excellente aide-soignante, technicienne, ferait en arrivant dans cette chambre, chez ce monsieur, qu'elle était habituée à prendre en charge normalement tous les matins, comme tête, en découvrant le spectacle. Et là, j'avais toute l'équipe en face de moi. Elles ont toutes fait une tête horrifiée. Alors, je ne peux pas me tourner vers la salle pour faire la tête, mais en gros, vous imaginez. Donc, je leur ai demandé de revenir dans la salle, après avoir bien assimilé cette image, les unes des autres, et ensuite d'imaginer ce qui se passerait pour le patient, qui avait eu un problème pendant la nuit, et qui, comme tous les matins, s'attendait à voir arriver une aide-soignante. Et ce qui se passerait pour ce patient en voyant la figure qu'il venait de voir, entre eux. Et là, la réaction n'a pas tardé. En une fraction de seconde, c'est « mais il a honte ». Voilà. Donc l'idée, c'était peut-être d'introduire cette dimension de l'humain avant d'introduire la dimension technique. Oui. Et simplement d'apprendre, peut-être par des moyens très simples, aux soignants qu'il n'y a pas de soins s'il n'y a pas de relation.
Vignette qui étaye ce que disait Louis, puisqu'il avait cité tout à l'heure cette situation. Vous aviez quelque chose à dire, Louis ?
Oui, mais dans la foulée de ce que disait Madame Roumanoff et de ce que tu viens de dire, mon cher Frédéric, je ne t'avais pas identifié, dis donc, je vais mal. Avant que tu parles, je t'ai reconnu à la voix, parce que je suis un peu myope. L'histoire d'Angèle. Angèle, c'est une patiente de Madame Hans, qui a fait son mémoire sur une gériatre de Belfort. Angèle, tous les soirs, faisait son baluchon. Quand l'alarme incendie, qui se mettait souvent en route, sonnait, elle paniquait. Et surtout, elle se bourrait des Kleenex dans le vagin. Donc, imaginez le dégoût des aides-soignantes le matin. Tout ça jusqu'au jour où un de ses enfants, que personne ne connaissait, vient, un fils aîné. Ce fils aîné raconte l'histoire d'Angèle. Angèle était quelqu'un qui avait été résistante aux Allemands, je crois en Ukraine ou je ne sais pas où, résistante aux Allemands, toutes les nuits, sac au dos. Elle avait même continué à être résistante aux Russes quand ils sont revenus. Toutes les nuits, sac au dos, changeant de lieu de campement avec des documents secrets chez où vous vous en doutez, dans un endroit que l'ennemi visite en priorité, mais elle ne le savait pas. Quelle étourdie. Et le fait de redéfinir Angèle comme une héroïne a suffi à ce qu'en quelques mois son statut évolue et qu'elle soit regardée autrement et regardée comme une femme bigrement intéressante et non plus comme une vieillarde faisant peur et étant repoussante. Alors peut-être qu'elle aurait évolué favorablement toute seule, sans ça, mais le changement de regard a beaucoup changé. Et moi, je vous invite à ces changements de regard, notamment sur ce que vous disiez. Elle a besoin, ici et maintenant, soit de nous montrer quelque chose, parce qu'elle revit une scène d'horreur par analogie, soit de nous montrer quelque chose qui le rassure en étant, je disais, j'ai 18 ans, je suis présent. Il faut être à la quête de ce que peut-être faire marcher notre imagination. Et la bientraitance, à mon avis, elle passe par la mobilisation de l'imagination des soignants.
Daniel Rapoport, dernière intervention avant le déjeuner.
Oui, c'est par rapport à cette patiente qui après vous dit, qui vous parle du cimetière sur le pas de la porte et puis tout ce qui a été dit. J'ai eu une relation un peu privilégiée dans une EHPAD avec un très vieux monsieur qui venait d'arriver, qui était en fin de maladie d'Alzheimer et même fin de vie. Et c'était très intéressant parce qu'ils avaient accepté que ces aidants familiaux, et tout à l'heure il va y avoir une table ronde sur les aidants familiaux, continuent à venir le voir. Parce qu'un de ces aidants familiaux était très 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 ami, ainsi que son compagnon. C'était un couple d'hommes et ils étaient très très attachés à ce vieux monsieur. Donc ils ont continué à venir le voir. Et là, ils ne supportaient pas dans cette EHPAD les hallucinations dont vous avez parlé de ce vieux monsieur qui voyait tout le temps sa maman qui était là. Et là, le déclenchement du diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est qu'il voyait ses deux parents. Après, il ne voyait plus que sa maman. Et il était très en colère après cet aidant familial qui ne mettait pas les deux couverts. Pourquoi à table, il ne mettait pas les deux couverts puisque son papa et sa maman allaient venir manger? Alors, chaque fois, il disait, mais vous savez bien qu'ils sont morts à Auschwitz, vous savez bien la déportation, vous savez bien tout ça, on parlait de tout ça et tout. Non, c'était dans une relation. Vous voyez, il a suffi que je dise Auschwitz, mais j'aurais dit, ils sont morts. Bon, non, pas du tout. Ces gens, vous voyez comme c'est compliqué. Le fait de reparler de cette période apaisait, au contraire, ce vieux monsieur. Il n'y avait pas de déni, ça faisait partie de sa vie. Tout ça, etc. et tout, mais ils continuaient à les voir. Alors, tout à l'heure, alors, j'ai eu une idée et je lui ai dit, mais vous avez raison parce que vous les voyez vraiment. Donc, ils sont là, ils sont près de vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Et c'est ça qu'on appelle ici une hallucination. Les médecins appellent ça une hallucination. Mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Vous les avez en vous. Non, mais je ne m'en foutais pas, monsieur. Non, je ne veux pas qu'on déforme ce que je suis en train de dire. On s'en fout. C'était dans quelque chose de pas rationalisé. Et à ce moment-là, il s'est apaisé, tout allait et tout. Et puis... Bon, j'ai fait d'autres choses et sur le pas de la porte, il m'a dit, je crois que j'ai compris, madame. J'ai un mirage. Mais voilà, alors,
dans la formation,
fou. J'ai un mirage, il me dit. Donc, en fait, il avait parfaitement compris, il avait suffisamment, lui, de quelque chose que pour comprendre, il demandait qu'on respecte.
Voilà, dans la formation des vendeurs... On leur dit qu'il y a deux phrases clés, c'est bien normal, vous avez raison. Quand on commence par c'est bien normal, vous avez raison, l'agressivité de l'autre tombe. Je connais personne qui se met en conflit ou en colère, sauf un grand pervers éventuellement, avec quelqu'un d'autre s'il ne pense pas avoir raison, de son point de vue. Donc si on ne commence pas par reconnaître que de son point de vue c'est comme ça, que c'est bien légitime, qu'il y a une logique, on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un. Mais ça, les étudiants en psycho ne veulent pas l'entendre souvent, comme quand je leur dis « vous n'avez qu'à sourire aux gens », mais je n'ai pas envie de sourire. D'accord, mon petit, mais votre sourire commercial entraînera un vrai sourire, et après vous aurez envie de sourire. Et ça change tout. Allez vers un patient, j'ai un peu dévié, hein, mais allez vers un patient en lui souriant, il se passe des choses merveilleuses, allez vers un patient en faisant la gueule, en prenant une baffe.
Sur cette phrase d'auteur... Nous allons nous séparer. Je vais remercier les deux intervenants et même, je dirais, les cinq, parce qu'il y avait également les intervenants de la matinée. Vous souhaitez un bon appétit et vous demandez d'être vigilants et de revenir à 2h moins 5, car notre après-midi est particulièrement chargé.